19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Informés, quel plaisir de vous retrouver chers amis auditeurs. Bonjour, bonsoir, c'est parti, vous le savez, nous démarrons cette émission, hein, ça n'a pas changé, on commente, on décrypte et on analyse l'actualité. Vous êtes très nombreux à nous écouter, hein. Très, je vous le dis, hein. Bientôt les chiffres vont tomber, mais bon, ça nous fait plaisir évidemment que vous soyez toujours aussi nombreux à nous suivre, ici même. Merci pour votre fidélité, je vous le dis tout de suite. Allez, au sommaire de cette émission, nous allons démarrer, vous savez quoi, avec une interview. Ce sera avec le sénateur Akli Mellouli qui viendra nous parler à la fois de deux ambiances. D'un côté, évidemment, celle d'un islam qui se reconstruit, puisqu'il est souvent régulièrement convié, invité en tant que sénateur. Et puis de l'autre côté, le combat de ce conflit israélo-palestinien. Nous parlerons avec les débatteurs influenceurs. On a les jeunes d'un côté et les jeunes vieux de l'autre. C'est pas mal ça, non?
Ah non.
Non, alors. Alors, on va dire, alors, les jeunes, les super jeunes d'un côté et les jeunes de l'autre.
Voilà, moins de 25
ça,
ans.
Ça vous va?
Non, ça va.
Il est
ça va.
Les super jeunes. Les super jeunes et les jeunes. voilà, ça va être le face-à-face. Ça promet. Nous reviendrons sur un sujet d'actualité, c'est celui de Mathilde Panot. Vous savez, convocation, et on continue de parler d'elle. La convocation est différente. Politiques, ne doivent pas se régler devant la justice. Ça, c'est M. Glucksmann qui dit cela. L'arroseur a arrosé, toujours pour l'apologie du terrorisme. Là, je parle de M. Retailleau. Nous reviendrons sur le couvre-feu partout en France. Pour les mineurs, on commence à parler de Nice, Béziers, Perpignan, ces maires qui veulent serrer la vis. Mais où va-t-on? Où va-t-on, clochette? Conflit israélo-palestinien, vous savez quoi? À l'université de New York, la situation est hors de contrôle. Quand je dis hors de contrôle, ça veut dire tout simplement que les étudiants juifs eux-mêmes craignent pour eux. Clochette. 01 53 48 3000, c'est le numéro qui n'a pas changé, c'est le même, hein. Vous nous appelez avec autant de passion et vous venez vous commenter à votre manière les sujets d'actualité. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec le sénateur Akli Mellouli que vous connaissez, que je ne présente même plus. Monsieur le sénateur, bonjour.
Bonsoir Adil, bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs.
Merci d'être avec nous, monsieur le sénateur Akli Mellouli. Je le rappelle, vous êtes le sénateur du département 94. Yaretchi Thibault, ça vous dit quelque chose? Il est avec nous en tant que débatteur récurrent. Ça va? Vous pouvez le saluer.
Bien sûr, on salue l'invité de qualité que tu as choisi ce
soir,
Adil.
Ah oui, absolument.
Ouais. Bah, je salue Richie et je salue
Sabrina Nouri.
Les jeunes qui sont engagés. Oui, j'ai vu que je sais pas qui est avec nous sur le plateau.
Voilà, ouais,
en tous les cas, je vous salue tous. Et Richie, c'est un avenir prometteur.
Il va finir député. Je vous l'ai toujours dit.
Merci, mon cher.
Monsieur le sénateur, vous verrez.
Je l'espère. Bah, il sera député chez les Insoumis.
Chez les Insoumis, bah, ça tombe bien.
Oh
on a une Insoumise ici justement. Dites-moi, monsieur le sénateur. Oui, dites-moi.
Oui.
Qu'est-ce que je vous ai interrompu?
Moi, j'aurais préféré qu'ils viennent député ou sénateur chez les écolos.
C'est l'alliance de la gauche. Hein.
Ouais, mais il a le profil plutôt d'un insoumis, lui. Ça.
Si on refait la NUPES, il y a des chances.
Mais moi, j'ai pas de problème, j'ai rien contre les insoumis. Moi, je dis juste que j'aurais préféré qu'ils soient chez les écolos que les insoumis. Mais c'est un choix et je respecte le choix. Un insoumis aurait dit l'inverse. Mais c'est normal.
Monsieur le sénateur, à vous de le convaincre. Hein,
que de sages paroles.
À vous de le convaincre.
Il faut que je pense que l'important c'est qu'il soit à l'aise là où il sera, quoi. Ouais. Et qu'il soit convaincu par lui-même. C'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres. S'il n'est pas convaincu de lui-même, moi je peux lui donner les arguments. Après, c'est à lui de faire le choix.
Exact.
Ça s'appelle la démocratie. Il doit choisir.
Il est bon, le sénateur.
Si seulement nos gouvernants avaient la même mentalité.
Ouais.
Ça s'appelle la démocratie normalement. Hein. Quand on veut être une grande démocratie, on doit accepter que les gens ne soient pas d'accord ou qu'ils ne prennent pas les mêmes chemins que vous et que même ce chemin peut être respectable.
Absolument. Parlons de choses, vous savez quoi, qui nous concerne, monsieur le sénateur Akli Mellouli, dans le département 94 hier, vous savez quoi? C'est un peu la tournée de monsieur le ministre de l'Intérieur. Hier, vous étiez convié, justement, à une réunion très importante concernant l'islam de France, l'islam en France, je sais plus d'ailleurs comment peut-on le dire. Et monsieur le sénateur, vous savez, justement, il a fait tout un discours concernant, vous savez quoi, le FORIF, c'est-à-dire la nouvelle fédération. Il a proposé, en tout cas, il soumet l'idée que, plutôt que ça s'appelle Forum, et l'installer dorénavant avant sous la forme d'une chose qui s'appellerait sous la forme d'une fédération française des musulmans de France. Qu'est-ce que vous en pensez tout d'abord, vous, en tant que sénateur du département du 94?
Moi, ce qui m'intéresse plutôt que la forme, c'est le fond. C'est aujourd'hui comment on sort l'islam de cette stigmatisation, de ce racisme débridé à l'encontre des musulmans. Et ça, c'est le vrai sujet. Et moi, j'ai trouvé hier le discours du ministre de l'Intérieur plutôt apaisé par rapport à ce que j'ai pu entendre parfois. Et donc,
pourquoi
tout ce qui va dans le bon sens.
Pourquoi pourquoi il était apaisé? Qu'est-ce qui, selon vous, a...
Bah, vous étiez là, Adil, quand il a dit que les discriminations, les attaques contre les musulmans étaient...
Oui, et il a c'est mis vrai, je confirme.
Sur un même pied d'égalité. Il a tenu des propos sur la laïcité qui disait que dans l'espace public, les gens pouvaient s'habiller contre lui, il fallait arrêter tout ça. Donc je trouve qu'il a cité Briand, il aurait pu citer Jaurès, il a cité des gens qui étaient effectivement dans la cohésion sociale, qui étaient en responsabilité et qui n'étaient pas là pour discriminer les uns ou les autres ou pour dire être la police des mœurs, comment s'habiller, etc. Et parce qu'on ne peut pas critiquer ce qui se passe en Iran et ici empêcher les gens en disant mais eux s'ils le mettent, c'est par obligation. Donc à un moment donné, il ne faut pas perdre deux poids, deux mesures, il ne faut pas être dans le double standard. Et j'ai trouvé que hier, son discours, franchement, vous y étiez, et les gens peuvent le reprendre, on aurait pu le faire.
Ouais, pourquoi vous étiez vous-même un élu local, justement, à Bonneuil-sur-Marne? Pourquoi ça a du mal à prendre l'organisation de cet islam en France? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui bloque, selon vous, monsieur le sénateur?
Parce que l'islam n'a pas de clergé. L'islam, c'est effectivement un rapport entre la foi et l'individu. Vous êtes en direct avec Dieu, il n'y a pas besoin de clergé. Donc on veut organiser une religion qui n'a pas de clergé, mais en même temps, on essaye de la diaboliser. Donc qu'effectivement, il y a une fédération, vous avez vu le RAM 94, c'est un réseau de solidarité qui s'est mis en place entre les mosquées du 94.
C'est vrai.
Que des réseaux de solidarité, mais on ne peut pas avoir un clergé. Vous n'allez pas inventer un clergé, vous n'allez pas dénaturer la religion. Le problème aujourd'hui, c'est...
Mais reconnaissons quand même que de l'extérieur, qu'on voit quand même que l'islam a du mal à prendre forme, à s'organiser quand même. On voit bien que c'est décousu, qu'on a du mal à prendre des décisions, qu'il y a encore un islam qui est dirigé par un islam consulaire, si je peux me permettre l'expression.
Oui, mais qui est d'ailleurs, il n'y a pas que l'islam consulaire, il y a les gens qui ne pratiquent pas, il y a toujours, tout le monde est dans la stratégie de vouloir mettre la main, tout le monde va influencer tout le monde, pour arrêter de faire les vierges parachées quand il y a des réalités. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez organiser une religion qui, elle, peut s'organiser, mais qui n'a pas de clergé. Donc, en fait, vous voulez qu'il y ait une expression unique. Non, il y a d'ailleurs des diversités de pratiques dans la religion, et aujourd'hui, la question, c'est qu'il respecte effectivement, c'est la laïcité, c'est-à-dire la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Et aujourd'hui, j'ai force de constater qu'on maltraite, et d'ailleurs dans ces chiffres qu'a dit le ministre et tout ça, hier il a dit qu'aujourd'hui ils allaient mettre en place un système pour pouvoir avoir les remontées parce que ce serait encore en dessous des atteintes qui sont faites aux musulmans et aux lieux de culte musulmans, ce serait en dessous parce que les gens ne portent pas plainte.
Monsieur le sénateur, autre sujet, aujourd'hui il y a une campagne, celle des élections européennes, qui inquiète beaucoup. Alors, inquiète dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on ne parle que du Rassemblement national, monsieur le sénateur. D'abord, vous, sénateur, quel regard portez-vous sur cette campagne aujourd'hui, qui préoccupe beaucoup, d'ailleurs, hein, à la fois cette préoccupation qui est... Je commencerai d'abord par tout simplement, les quartiers populaires n'y croient plus. Premier point. Deuxième point, vous connaissez les élections européennes. Il n'y a pas beaucoup de... ça vote pas beaucoup. Alors, pour faire barrage à l'extrême droite, que faut-il faire?
Pour faire barrage à l'extrême droite, il faut déjà voter. Parce que plus vous votez, les gens qui ne votent pas vont faire monter le chiffre français parce que c'est proportionnel. Donc si vous votez, vous faites baisser déjà le Front National. Donc là-dessus, il ne faut pas d'incohérence. Après, qu'on n'y croit pas, je ne sais pas, ça veut dire qu'on n'y croit pas. Parce que vous savez, en politique, il y a le temps long et le temps court. Et aujourd'hui, moi, si je plante un olivier, moi, que c'est mes origines dans la Gaville, par exemple, je peux prendre l'exemple que j'aime bien, l'olivier de la Méditerranée, qui est l'arbre de la paix. Aujourd'hui, c'est d'actualité encore, cet arbre. Si je plante un olivier, il n'est pas sûr que moi je puisse en goûter les fruits. Il n'est pas sûr que moi je puisse boire l'huile de cet olivier. Par contre, les générations futures vont boire l'huile de cet olivier. Donc je leur dis juste, planter cet arbre, donner quand même un espoir truc, et ne laissez pas les autres décider à place, parce que quand on vote pas, on favorise la majorité, on favorise le vote majoritaire, parce qu'aujourd'hui, ceux par contre qui veulent voter pour la seule, eux vont se déplacer, c'est ça la vraie difficulté. Alors après, qu'ils soient dégoûtés, pas dégoûtés, c'est pas la question, c'est est-ce qu'on veut laisser arriver au pouvoir des gens? C'est ça la vraie question aussi. Et moi, je le dis, je suis un démocrate qui vote comme il veut, c'est pas le sujet. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire je ne suis pas responsable, parce que c'est facile aussi de dire ah mais j'y crois plus, donc j'y vais plus ou je vote plus. Parce que dans ce cas-là, on est aussi complice. C'est comme le silence. Quand on dit rien, on est complice de ceux qui y agissent. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et moi, je les invite à prendre la responsabilité. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Bien sûr que les politiques, il y en a qui mentent, il y en a qui ne mentent pas. Il y a de tout dans les politiques, c'est comme partout. À un moment donné, c'est aussi à eux de faire le discernement et de voir sur lesquels ils peuvent investir. Vous savez, quand vous élevez un poulain ou un truc comme ça, vous n'êtes pas sûr que ce sera un cheval de course, vous n'êtes pas sûr de truc, mais vous l'élevez parce que vous avez foi, vous croyez. Le pire, c'est de ne plus croire en rien. C'est ça qui me désole. C'est pas qu'ils soient pas d'accord avec nous, c'est que les gens n'y croient plus. Et moi, j'ai envie de leur dire, il faut y croire, parce que c'est quand on n'y croit plus que le pire arrive.
Et on va parler de la situation, vous savez, au Proche-Orient, notamment sur le conflit israélo-palestinien, monsieur le sénateur.
Et au passage sur les européennes, je voulais dire, je ne l'ai pas dit, mais je dis sans aucune condition, là pour le coup, de façon inconditionnelle, et alors qu'on ne devrait pas le dire en droit, par contre on peut le dire pour des personnes, je soutiens Mathilde Panot, Ribassad, et tous ceux qui sont, qu'on veut faire taire parce qu'ils portent des opinions, ils portent des combats avec lesquels certains pourraient ne pas être d'accord, etc. Mais je dis que c'est une atteinte, et quand on est une grande démocratie, on ne doit pas empêcher la parole, on ne doit pas empêcher les gens de s'exprimer, on ne doit pas empêcher le débat démocratique nécessaire pour la vitalité démocratique. Et donc, je soutiens effectivement tous ceux qui sont appelés et qui sont convoqués, alors qu'ils ne font qu'exprimer une opinion.
Dernière question, monsieur le sénateur, monsieur Akli Mellouli, Amnesty International, vous savez qu'un crime Israël justement pour ses agissements à Gaza. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que notamment les manifestations pro-palestiniennes, vous trouvez qu'elles sont toujours aussi présentes sur le territoire dans l'Hexagone ou pas du tout?
Alors, je fais attention au qualificatif, Adil, moi, je comprends ce que vous voulez dire, parce que pro-palestinienne voudrait dire que les gens seraient partis pris sur un côté.
Volontairement, j'ai fait exprès de poser cette question.
Je le sais, je vous l'ai fait volontairement, et moi, je le fais volontairement, je la relève, parce qu'en fait, on est pro-paix. En fait, c'est les autres qui sont pro quelque chose et qui veulent justement nous disqualifier en nous disant qu'on aurait des œillères pour ne pas voir les choses. Moi, je demande que la CPI rentre, depuis le début, les écolos demandent que la CPI rentre à Gaza pour qu'elle condamne tous ceux qui ont commis des actes, des crimes, ou ceci à génocide, le risque est là, on l'a dépassé, il y a vraiment un génocide. Et donc, à un moment donné, il faut que les condamnations tombent. Et la justice ne peut pas être à géométrie variable. On ne peut pas avoir de double standard. La France est en train de se perdre sur ses valeurs universelles. Quel crédit on peut donner à la parole de la France quand elle n'est pas capable de voir et de faire respecter un certain nombre de choses? On a vu que nous, quand on a voté, quand ça a été voté à l'ONU, là, justement, pour la reconnaissance des Palestiniens, notre ambassadeur a été convoqué. Qu'est-ce qu'on attend pour convoquer l'ambassadeur d'Israël? Pour lui dire que on n'est pas sur ce qui se passe, on n'est pas complice de tout ça et qu'on veut que des mesures soient prises. Eh bien, il faut, à un moment donné, en politique, il faut du courage. Il y a des moments où c'est le courage qui doit primer. Et moi, je ne suis pas contre la coutume. D'ailleurs, à qui je souhaite une très bonne fête de Pessah, et donc je l'appelle, quand ils connaissent l'histoire, ils devraient effectivement être pour la paix et défendre cette paix et ne pas reproduire des choses. Et donc, c'est ça le vrai débat. Moi, je ne suis pas contre les peuples, je suis avec les peuples. Je suis avec le peuple arménien. Aujourd'hui, on a fêté sur le geste des Arméniens. Je suis avec les peuples qui souffrent, je suis avec les peuples qui luttent, je suis avec les peuples qui ne sont pas respectés. Je suis pour la dignité des peuples. Et cette dignité, elle ne peut pas être à géométrie variable, elle ne peut pas souffrir de double standard. Donc aujourd'hui, il s'agit de la dignité du peuple palestinien et nous devons être mobilisés et nous devons continuer à nous battre. Et l'on ne doit pas se taire. Même si on est poursuivi, nous sommes poursuivis parce que nous sommes les justes d'hier, c'est nous aujourd'hui.
Monsieur le sénateur, merci infiniment Akli Mellouli, merci d'avoir été avec nous et d'avoir été donc en direct dans Les Informés. Merci Akli Mellouli, merci monsieur le sénateur.
Merci, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nous, et puis bonsoir à vos invités.
Merci. Salut. À vous.
Merci, bonsoir.
J'ai le temps d'accueillir nos débatteurs influenceurs. Je vais commencer par mesdames. Sabrina Nouri, comment ça va?
Eh ben, ça va très bien.
Vous nous avez manqué?
Ah ben, un petit peu, oui. C'est ma grande rentrée.
Oui, c'est votre grande rentrée, absolument.
C'est la rentrée.
Tout va bien. Deux jeunes. Richie Thibault, bonjour.
Bonsoir, Adil. Toujours
mignon,
un plaisir.
Vous êtes que là, à côté de l'autre, là.
Bah oui, bien sûr.
C'est mignon, ça, dis donc, là. C'est tout mignon.
C'est la convergence des esprits forts.
C'est la convergence des esprits forts.
Très belle formulation.
Oh là là. Et ça y est, les conquises.
Réciproquement.
Vous, elle est conquis, hein. C'est incroyable, hein. Qu'est-ce que vous avez fait?
C'est la convergence des idées, encore une fois. On est sur
bon, c'est jeune, hein.
Des valeurs communes.
C'est bon, ça.
C'est jeune, hein. Nérina Mallard, ça va?
Ça va très bien, merci.
Tout va bien?
Oui, tout
ça
va
se passe bien
à
Sciences Po?
Ça se passe bien. Tout va bien pour moi.
Super. Alors allons-y, vous savez quoi? Il y a Merwan justement qui va arriver, journaliste lui aussi également, dans une poignée de minutes. Et on va accueillir Smaïl qui nous appelle d'où? Juvisy, c'est ça? Bon, bah écoutez,
91.
91, ouais.
Ouais.
A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, vous savez quoi? Le face-à-face, chers amis.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Merwan Mehoubi, le journaliste qui est coincé un peu dans les bouchons, est en retard. Il ne va pas tarder. Allez, tout de suite, vous savez quoi? Le face-à-face avec Richie Thibault, avec Nirina Mallard et enfin avec Sabrina Nouri. On va démarrer avec ce tout premier sujet, la convocation de Mathilde Panot. Vous savez quoi? Elle provoque justement des réactions. Les différentes politiques ne doivent pas se régler devant la justice. Ça, c'est estimé par Raphaël Glucksmann. En même temps, l'arroseur arrosé, ça, c'est une déclaration, il ironise, on a envie de dire, c'est Bruno Retailleau qui ironise. On continue, Mathilde Panot, toujours convoquée par la police, incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, vous savez, on parle que de ça en ce moment, et beaucoup considèrent que la provocation à l'antisémitisme en particulier, c'est inadmissible, explique l'avocat Antoine Comte. Parlons justement à une insoumise, Sabrina Nouri.
Bon, déjà, moi, je rejoins exactement ce qu'a dit notre sénateur Aklim Elouli. Je la soutiens bien évidemment dans cette épreuve, et je soutiendrai de toute façon l'ensemble des personnes qui seront convoquées par la police et même au-delà par rapport à cette affaire sur l'apologie du terrorisme, tout de suite les grands mots pour faire peur. Je ne vois rien dans toutes les communications que la France insoumise a pu émettre jusqu'à présent qui a une connotation d'apologie au terrorisme. Au contraire, depuis le départ, le langage de la paix...
Provocation à l'antisémitisme ?
Non, faut arrêter avec ça. Maintenant, aujourd'hui, même l'ONU, elle est considérée comme
incitation à la haine.
Incitation à la haine. Oui, tout le monde incite à la haine. À partir du moment... Écoutez, monsieur Farkan, maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte.
Oui.
Qui a déposé plainte pour que Mathilde Panot et les autres soient convoqués? C'est une organisation, c'est l'Organisation juive européenne. C'est une association partisane du génocide à Gaza qui porte plainte contre ceux et celles qui le contestent. Donc à partir du moment où vous contestez ce qui se passe à Gaza, que vous n'avez pas forcément une position pro-palestinienne, hein, on dit bien pour une position de la paix, eh bien, vous êtes considéré comme potentiel, comme vous faites de l'apologie au terrorisme de façon potentielle. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre de pouvoir saisir la justice et d'instrumentaliser cette situation. Et je regrette Mathilde Panot, qui est quand même présidente d'un groupe parlementaire, et je rappelle que c'est la plus jeune présidente d'un groupe parlementaire depuis que l'Assemblée existe, ce n'est pas rien. Moi, je suis complètement révoltée par ce qui se passe, tout comme les conférences qui sont annulées, tout comme la cabale qui est faite contre Rima Hassan. Là, on est vraiment dans une bascule autoritaire.
On D'accord. sent
le gouvernement est en train de basculer de façon à faire une politique
mais là, c'est pas le gouvernement,
autoritaire.
Ouais, mais c'est une convocation.
Oui, c'est non, mais d'accord.
La police
mais...
ne représente pas le gouvernement.
Non, mais on pourrait expliquer aussi les choses de façon claire. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation à cette convocation.
Oui.
D'accord. Personne ne condamne. En tout cas, du côté du gouvernement, que ce soit personne ne condamne. On est quand même en démocratie. Et c'est ce que dit Comte. Là, vous déformez ses propos.
Sabrina voulu donner le micro, ça
Vous déformez de ses propos. Lui, il dit qu'il faut avoir une liberté de penser. Et à partir du moment où que ce soit Mathilde Panot ou un autre, a aimé une opinion, aimé un avis, il faut accepter la liberté de penser et ne pas aller dans l'autoritarisme comme on voit là aujourd'hui, et surtout donner gage à une organisation, l'Organisation juive européenne, qui est contre toutes celles et ceux qui contestent ce qui se passe à Gaza.
Je laisse le soin à nos auditeurs, 01-53-48-3000, vous savez quoi, de nous appeler. Tiens, jingle, Solal.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
c'est l'heure de consulter les auditeurs. Solal vous accueille au standard. Vous pouvez nous inonder. Parce que vous savez quoi, je voudrais vous entendre. Voilà. Sabrina Nouri, qui représente LFI ce soir. Bon, je respecte son propos, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de trancher et de venir nous dire, évidemment, qu'est-ce que vous pensez de toute cette ambiance. 01 53 48 3000. Tiens, Richie Thibault et Nerina Mallard.
Oui, on fait face avec cette histoire d'apologie du terrorisme à une véritable chasse aux sorcières. Il y a une forme d'inquisition qui est en place et je le dis vraiment avec beaucoup de mesures. C'est extrêmement grave. La liste est de plus en plus longue. On a eu Rima Hassan qui est juriste, rappelons-le par ailleurs, donc qui est quand même assez qualifiée en termes de droit pour prendre position sur ce conflit et qui n'a rien fait
d'autre. Alors certainement vous êtes tous d'accord ce soir, je le rappelle à nos auditeurs. Non mais attendez, sinon ils vont me dire oui, mais vous avez constitué un plateau où tout le monde est d'accord.
Adil.
Non, ce matin... D'accord.
Non, mais là, il y a pas.
Ce matin, j'avais une personnalité qui représentait les Républicains qui m'a fait faux bond. Parce qu'il a eu un empêchement.
Mais c'est important,
parce que souvent on me le reproche, on me dit oui, Adil, tu n'équilibres pas le plateau, etc.
Adil, c'est pas une question d'équilibre.
Non, mais d'autant que l'enjeu là n'est véritablement pas partisan. Il s'agit vraiment de respect d'un principe fondamental, fondateur de notre dite démocratie, et je dis bien dite démocratie au vu de ce qui se passe en ce moment, qui est la liberté d'expression politique. C'est consacré dans notre déclaration des droits de l'homme et donc dans le préambule de notre constitution. Il y a une véritable chasse aux sorcières. Je voulais vous faire la liste, Rima Hassan, Anas Kazib, les étudiants de Solidaire de l'HESS, Mathilde Panot.
Pardon, Richie Thibault. C'est pas un peu facile. C'est pas un peu facile d'endosser l'habit de la victimisation, franchement.
Mais c'est pas une question de victimisation. Aujourd'hui,
vous écoutez parler ici. On a l'impression que c'est nous les victimes et puis les autres, c'est des gens bien, tout le monde va bien.
Aujourd'hui, qui est poursuivi en l'occurrence?
Je pose la question.
Est-ce ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza ou bien ceux qui en font l'apologie? Maher Habib, par exemple, qui tient des propos à peu près vraiment scandaleux. Maher Habib qui fait l'apologie du génocide à Gaza. Maher Habib qui fait l'apologie des crimes contre l'humanité. Maher Habib qui crache sur les institutions internationales, sur les Nations Unies. Le député, oui. Est-il convoqué pour l'apologie de ces crimes-là et des violations du droit international par Israël pour lesquelles il prend position? Moi, je vous parle de respect du droit. Aujourd'hui, dans le communiqué dont il est question, celui du 7 octobre, que Madame Panot, dont Madame Panot assume la responsabilité en tant que présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise.
Elle ne condamne pas, elle ne reconnaît pas que le Hamas est un mouvement terroriste.
Est-ce que les gens ont lu ce communiqué?
On va pas recommencer le débat.
Qu'est-il dit dans ce communiqué?
C'est ce qu'on lui reproche. Moi, je fais que mon travail de journaliste. C'est ce qu'on lui
reproche. On respecte le droit international.
C'est ce qu'on reproche aux personnalités comme vous de
l'Hamas. Le Hamas n'est pas considéré comme une organisation terroriste. Ça n'existe pas juridiquement.
C'est là que le bas blesse.
Le bas ne blesse pas. On respecte le droit international. Le Hamas n'est pas considéré comme une organisation terroriste. Ça n'existe pas en droit international.
C'est les personnalités LFI qui le disent.
Ce n'est pas les personnalités LFI qui le disent, c'est le droit international, c'est le code.
Non, mais ce qui est très intéressant, est-ce que les gens qui parlent de ce communiqué l'ont lu? Et moi, je l'ai lu, ce communiqué qui a été rédigé le 7 octobre, et je trouve que c'est le communiqué le plus clairvoyant, parce que c'est le premier groupe politique de ce pays qui a demandé, qui a exigé, immédiatement après les attaques du Hamas, ou du Ramas, selon les personnalités médiatiques, eh bien, le cessez-le-feu.
Et
c'est le premier groupe courageux à avoir demandé un cessez-le-feu dès le 7 octobre. Citez-moi un autre groupe parlementaire qui a demandé un cessez-le-feu le 7 octobre. Ça, c'est une position politique courageuse. Et le respect du droit international.
Nerina Mallard.
Bien, moi, je pense
qu'est-ce qui vous fait sourire?
Rien, je regarde le
débat.
C'est
le Hamas.
J'aime voir des gens passionnés parler d'un sujet qui leur passionne, défendre des causes qui leur tiennent à cœur. J'aime voir ça. Et je vais aller sur un autre angle. C'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Monsieur Ritchie. On est dans un vrai problème de chasse aux sorcières.
Vous avez droit à Monsieur Ritchie quand même, c'est bien.
C'est pas rien.
Non, ouais. Mais... pour moi, ça me rappelle un peu
le
macartisme.
Absolument.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un climat de macartisme états-unien, mais au 21e siècle, en Europe, dans un autre contexte. Et ce que je trouve inacceptable, c'est que l'antisémitisme, justement, soit instrumentalisé à ses fins. L'antisémitisme, ça existe vraiment. Et je trouve que c'est presque discréditer cette lutte que... d'utiliser l'antisémitisme pour ça. Être pour la paix, c'est pas être antisémite. D'ailleurs, je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Je trouve que ça témoigne véritablement d'une baisse de la démocratie. La démocratie, c'est pas que le vote.
Vous pensez qu'elle baisse la démocratie ?
Oui, ça a été prouvé par l'Institut international de la démocratie. En Suède, la démocratie est en complet recul. La démocratie, c'est pas que le vote. C'est la liberté de presse, c'est la liberté d'expression, c'est la capacité à s'organiser.
C'est la capacité
à se rassembler. Et là, on est totalement dans ça. C'est une opinion, ce n'est pas une incitation à la haine. Et cette opinion est jugée comme inacceptable. Des plaintes ont été portées. Et pour moi, ça témoigne clairement du baisse du niveau de la démocratie en France. C'est une opinion acceptable. On a le droit de défendre la paix.
Vous trois, vous écoutez parler, on dirait qu'il n'y a que ça à nourrir. Autour, évidemment, Adine, vous brodez quelque chose autour de ça.
On brode rien du tout.
Il ne faut pas s'embrouiller dans le complotisme, Adine.
On va solliciter nos auditeurs.
Allez-y.
Ça vous va ?
Alors, on prend les paris.
Non, ce n'est pas une question de paris, on n'est pas là pour parier. On parle d'un sujet sensible quand même. On n'est pas là pour faire du déjeuner.
Aux yeux de Monsieur Retailleau je précise que l'association dès
qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Gaza, elle porte plainte. Donc elle a porté plainte contre l'humoriste, comment il s'appelle déjà, Guillaume Meurice.
Ah, Guillaume Meurice, oui.
D'accord.
Oui, oui.
Les plaintes ont été classées sans suite.
Oui, c'est vrai, j'ai suivi.
Donc je pense que tout ce qui se passe là, ça va être sans suite. Et donc là, on est en train de discuter sur un sujet. Et du coup, on ne discute pas des vrais problèmes
On va chercher nos auditeurs. Smaïl, bonsoir. Smaïl, je vous accueille. Vous êtes de Juvisy. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bien dans le micro. Attendez, parlez bien dans, pas dans le micro, pardon. Bien devant le combiné. Oui. Vraiment. Pas d'haut-parleur, parce que sinon, vous savez quoi, on a beaucoup, beaucoup de mal à vous entendre en direct, sinon. S'il vous plaît.
D'accord. Vous m'entendez bien là ?
Non.
Allô, je suis là.
Oui, allez-y. Parlez bien dans le micro. Parlez bien devant votre combiné, s'il vous plaît.
D'accord. Alors, ce que je veux dire.
Smaïl, je vais devoir. Non, Smaïl, je vous promets, ça passe pas du tout. Il faut parler bien devant votre combiné de téléphone et éviter les haut-parleurs. Réglez tout ça et je vous récupère tout de suite après. Leïla, bonsoir, Leïla de Paris.
Oui, bonsoir, Adil, comment ça va ?
Smaïl va vous expliquer à Smaïl. Smaïl, il va expliquer. Solal, pardon, va expliquer à Smaïl ce qu'il faut faire précisément parce que sinon on pourra pas l'accueillir. Leïla, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir, bienvenue. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Ben, je travaille.
Vous êtes très bien. Travailleur, travailleuse. Allons-y, je vous écoute. Bonjour, Merwan.
Eh bien, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est qu'actuellement en France,
oui,
le gouvernement français joue le jeu des trois singes.
Mmh.
On n'accable jamais l'antisémitisme à sens inverse.
Mmh.
Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses raciales vis-à-vis des musulmans. Ouais. Bien évidemment,
il y a trop de gauchos. Alors, c'est pour ça que je dis, heureusement que je me suis justifié. J'ai essayé d'équilibrer le plateau ce matin. Voilà, je réponds aux auditeurs qui m'écrivent en temps réel. Leïla, allez à l'essentiel.
C'est fou, cette contrariété, quand même.
Le sujet, voilà, allez-y, parce qu'il y a beaucoup de monde au standard.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec les propos de la parlementaire. Parce qu'en fait, ce n'était pas des.
Pour moi, dès qu'on fait plaisir à Sabrina, ça y est, elle est contente. Hein.
Ah, mais attendez, mais pas du tout.
Sérieusement, parce que je pense que c'est qu'une opinion qu'elle a donnée.
Mais bien
effectivement,
sûr, elle a raison.
La liberté d'expression, j'ai l'impression qu'elle est de plus en
plus
censurée en France.
Les auditeurs et auditrices se disent, Adil.
Mais moi, je suis pas juge.
On n'a pas le droit de donner nos opinions. Quand il s'agit du peuple, excusez-moi, juif, on n'a pas le droit de donner nos opinions, on n'a pas le droit... Mais attendez, le génocide, il n'y a pas que les juifs qui ont vécu un génocide. Hein. Aujourd'hui, il y a des génocides arméniens,
on ne peut pas mettre sur... Non, mais on ne peut pas. N'allons pas sur terrain, parce que sinon, après, ça va être explosif sur le plateau. On ne peut pas comparer la Shoah avec ce qui se passe sur ce moment à Gaza.
Mais on
ne
compare pas ça du tout.
C'est ce qu'elle entend. Il y a quelque chose de sous-jacent dans ce qu'elle dit. J'entends.
Non, je vous écoute. Aujourd'hui, encore une fois, je le redis, malheureusement, on est arrivé à un stade où on peut rien dire sur ce peuple-là, on peut pas parler.
Si, vous pouvez dire des choses, pourquoi la preuve, tout le monde condamne Netanyahou.
Tout
le monde condamne Netanyahou. Mais si, vous pouvez pas dire ça. Vous avez le droit de dire que Netanyahou, par exemple, est un criminel. Pourquoi vous le dites ?
Attention, on va bien souvent une convocation. Attention, la convocation.
Je ne parle pas de moi. Je dis sur ce plateau, beaucoup sont en défilé pour dire que Netanyahou était un criminel sur ce plateau même.
Je me permets. Sur ce plateau même. Dans le 20e siècle, oui, c'est l'homme le plus criminel que je connaisse sur Terre. Le nombre d'enfants morts à Gaza, le nombre de personnes mortes à Gaza, mais c'est juste insupportable. On a beau, alors que ce soit l'ONU, toutes les organisations mondiales, ils ont beau à dire les choses, il n'y a personne qui bouge son petit doigt. Alors, sous prétexte qu'une parlementaire a donné son opinion, ça devient l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est dans les deux sens. Parce que nous aussi, les musulmans aussi s'en prennent plein la figure. Et c'est de l'antisémitisme. Pourquoi on n'irait pas porter plainte contre toutes les associations juives qui se permettent de dire des horreurs sur le peuple de Gaza?
Bon, c'est le coup de gueule, c'est le coup de gueule de Leïla.
Hein. Oui, c'est
tout à fait. Alors, Merwan, attendez, il va vous répondre, Merwan.
Merwan, il va vous le mettre
droit. Bonsoir, Merwan Mehoubi, le retardataire.
Oui, j'ai misé sur les transports en commun parisiens, et alors, du coup, j'ai eu quelques mésaventures.
Petite clochette à
pire. Allez, pour la faute des autres.
C'est ça, c'est jamais. Répondez à Leïla.
Non, mais, je vais même aller dans son sens, parce que je me souviens qu'il y a quelques temps, il y a un humoriste qui a fait une blague sur Netanyahou. Et on dit qu'on peut critiquer Netanyahou ou même en rire. C'est pas le cas parce qu'il a été convoqué par la police. Donc ça veut bien dire qu'il y a certaines limites qu'il faut pas dépasser. Et je dirais que dans cette logique à vouloir à chaque fois incriminer les politiques ou des personnalités publiques, dire que ce sont des antisémites, on prend le risque de ne plus savoir ce qu'est un vrai antisémite. Et alors du coup, dans l'indistinction générale, c'est là que les pires choses peuvent arriver. Alors à force de crier à l'antisémitisme pour rien, on risque de...
Allez.
On risque de rendre ça complètement.
On me demande de faire la pause. Solène me demande de faire la pause. Merci Laila d'être intervenue. On aura entendu votre coup de gueule. Je vais juste accueillir Rudy du 91. Avec plaisir Laila.
Oh, Rudy.
Bonjour Rudy. C'est pas le Rudy qu'on connaît, je crois pas.
Bonjour Nadine. Bonjour tout le monde.
Monsieur.
Rudy. Non, c'est pas le Rudy qui vient de débattre chez nous. Non, ça n'a rien à voir.
Ah bon,
non. Rudy, vous nous appelez de quelle ville?
Saint-Pierre-du-Perret, là.
Okay. Bah ouais, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rudy?
Je suis entrepreneur.
Rudy, vous savez ce que je vous propose? On marque une courte pause et on se retrouve avec vous en direct pour parler de cette situation extrêmement sensible. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Justement, 19h38 avec Sabrina Nouri, justement Nerina Malard, Richie Thibault et enfin Merwan Mehoubi. Je vais accueillir Rudy. Je vous avais dit, Rudy, que je vous allais vous accueillir tout de suite après la pause. Rudy, dites-nous tout, on vous écoute.
Bonsoir tout le monde. Alors, vous savez...
Parlez bien devant votre combiné, parce que ça brouille un peu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça brouille.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Ok. Alors, déjà, il y a deux problèmes qui sont évoqués. Je vais faire très succinctement, Adil. C'est que, premièrement, est-ce qu'on peut tout dire? Oui, on peut tout dire. On a un double problème. C'est que les gens n'acceptent pas de payer le prix de leur liberté. Le problème, il est là. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qui est interdit par la loi? On n'a pas le droit à la station à la Grassane. Oui. On n'a pas le droit de commettre des actes ou des propos islamophobes, racistes, antisémites. Oui. Mais la pensée en elle-même, on n'est pas obligé. On peut dire les choses de manière calme, franche, et finalement accepter cette franchise. Le problème est que certains n'assument pas leur rejet, leur haine... appelez ça comme vous voulez.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se dit ici sur ce plateau, mon cher Rudy?
Très simplement, c'est que les gens n'osent pas dire, dites-le en une phrase, je préfère défendre cette cause parce que les gens qui sont victimes sont musulmans. Voilà, dites-le.
Vous pose une question, Rudy.
Je suis pas sûre. Les gens.
Alors, Nerina.
Désolée, les gens défendent cette cause aussi.
Il s'appelle Rudy.
Ok, Rudy. Les gens défendent cette cause pas seulement parce qu'ils sont musulmans, mais parce que ce qui se passe, c'est colonial. Ce qui se passe, c'est.
Non, madame, c'est pas ça le problème.
Historiquement, c'est colonial ce qui se passe.
Attendez, écoutez-le, Rudy. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème?
Au moment où on se parle. Aujourd'hui, on a toujours un problème avec les Ouïghours. Hop, fermez les yeux, il n'y a rien à voir. On a toujours un problème entre musulmans et bouddhistes en Birmanie. Fermez les yeux, il n'y a rien à voir. On a toujours un problème à l'est de la RD Congo. Fermez les yeux, il n'y a rien à voir. Les gens, dites-le en une phrase, assumez-le, ce n'est pas un gros mot.
Merci pour ces précisions. Mais vous avez raison, c'est vrai de nous citer.
Mais
moi,
vous posez, non, vous, a, sur, vous a répondu, Nérina.
Sur le plateau, personne n'a de double standard. Pour nous, ce qui compte, c'est la dignité humaine. Non, partout,
il pose une vraie question
du globe. Et quand il y a un génocide, ou du moins un processus génocidaire au Congo, en Palestine, ailleurs, quand il y a des faits coloniaux, les Ouïghours, évidemment, on le dénonce. On n'est pas comme Monsieur Glucksmann qui passe tout son mandat aux élections européennes à dire oui, les Ouïghours, c'est scandaleux à juste titre, et qui là, face au génocide en Palestine, ne prononce pas un mot de condamnation à la hauteur. Nous, on n'est pas ici adeptes du double standard.
Et puis on oublie souvent de dire qu'à Gaza, il y a des chrétiens, et qu'en Israël, il y a des personnes qui se lèvent tous les jours contre ce qui est en train de se passer à Gaza. Et ça, il faut le dire. C'est pas, il faut aller au-delà des confessions religieuses.
Merci, c'est vraiment politique. Rudy, merci pour votre intervention. Oui, oui, dites-moi.
Payons individuellement et collectivement le prix de la liberté de penser et de dire ce qu'on a envie de dire. Ce n'est pas un gros mot de dire. Je suis plus sensibilisé à cette cause et contre certaines de ces personnes parce que, et le problème en France, dans l'opinion, c'est qu'on ne l'assume pas. Et là où il y a de la discrimination, c'est de dire, il faut, pour moi, il faut autant sensibiliser sur ce qui se passe à Gaza que se sensibiliser sur ce qu'ont vécu les Kurdes, sur ce qu'ont vécu les Yéménites, sur ce que vivent les gens à l'est de la Congo.
Ce qui soulève, effectivement, ce qui met en exergue, là, effectivement, il faut l'entendre. Rudy, je vous libère, merci infiniment, et vous avez raison, c'est vrai que là, ce que vous avez soulevé, évidemment, sur ces différentes, interventions, sur les événements qui se déroulent un peu partout dans le monde, il a raison de pointer du doigt là où le bas blesse, c'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que la situation à Gaza, évidemment, il l'a dit, Rudy, est-ce qu'il faut le voir plutôt sur cet angle ou plutôt de l'autre?
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout un conflit religieux. C'est comme l'a très bien dit Irène Hatter, c'est un conflit de nature coloniale qui remonte au bas mot à 1948. Et il faut arrêter, comme le font contrairement à ce que font certains médias depuis le 7 octobre, de donner une dimension essentiellement religieuse à ce conflit, car ce n'est pas le cas. C'est un conflit de nature coloniale, point à la ligne. Et c'est à partir de ces regards-là, de ces lunettes-là, et du regard notamment du droit international, qu'on doit prendre position sur ce conflit.
C'est tout à fait vrai. D'ailleurs,
je reçois juste un message en direct. Il y a une auditrice qui nous dit il faut parler du peuple israélien et des otages qui sont des civils qui n'aiment pas Netanyahou. Et ça, vous avez tendance à les oublier. Elle n'a pas tort.
Non, mais
c'est des messages que je reçois, je les reçois, c'est vrai de le rappeler.
C'est vrai de le rappeler, puisque dans les médias français, on a tendance à polariser et à dire qu'à partir du moment où on est un peu critique envers Netanyahou, on serait antisémite. Non, ou alors quand on soutient la cause palestinienne, on serait antisémite. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et preuve en est, c'est qu'il y a des Israéliens qui sont absolument contre Netanyahou pour la libération des otages, comme il y a des Palestiniens et aujourd'hui des Français de confession musulmane qui sont pour la libération de ces otages.
Smaïn,
voilà.
Smaïn, bonsoir. Rebonsoir, Smaïn. Vous avez pu vous régler votre aspect technique avec votre téléphone, Smaïn?
Oui, bien sûr.
Vous avez vu, tout de suite, ça change tout, hein, tout de suite, Smaïn. Vous avez vu? Allez, on vous écoute, bienvenue.
Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vos invités.
Vous étiez bien, et là, ça vous avez replongé dans le haut-parleur. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Dans les ténèbres.
Et je pense que vous m'entendez.
Ouais, on vous entend trop loin, hein, mon ami, hein, mon cher Smaïn.
Allô.
Oui. Non.
Je pense que.
Non, on a un gros problème. Smaïn, je suis désolé, je ne peux pas vous garder à l'antenne, Smaïn, pour une raison toute simple, c'est que c'est inaudible. Je ne vous entends pas du tout à l'antenne. Et on ne peut pas. 0153483000, vous pouvez venir, évidemment, commenter l'actualité. Et je voudrais qu'on avance quand même. Et parler, vous savez quoi, d'un autre sujet. C'est celui des couvre-feux pour les mineurs. Alors, de plus en plus de villes. Hein. On a Nice, on a Béziers, on a Perpignan et plein d'autres. Ces maires, vous savez quoi, qui ont envie de serrer les vis, qui en ont marre. Clairement. On a 13 ans. Bah, la raison, qu'est-ce que vous faites dehors?
On n'a rien à faire dans la rue.
Voilà, Merwan
Sir. Oui, on n'a rien à faire dans la rue à passer une certaine heure. Et d'autant qu'aujourd'hui, on a des parents qui ne réagissent pas ou qui sont plus concernés.
Donc, pour l'instant, un couvre-feu, vous êtes pour l'instauration du couvre-feu c'est pour les moins de 13 ans.
C'est peut-être à la communauté nationale aussi et à certaines communes de prendre certaines mesures et de faire ce que les parents, certains parents, ont décidé de ne pas faire.
C'est-à-dire
de mettre des limites parce que c'est pas leur servir. Parce que finalement, c'est pas leur servir que de leur laisser libre accès à n'importe quoi. parle pour les réseaux sociaux, n'importe quel contenu, ou alors de faire ce qu'ils veulent de leur vie à partir de 13 ans, c'est-à-dire être dehors sans être cadré. Donc non, si l'État peut les cadrer, oui, ça peut être une solution.
Mais alors là, ça veut dire que vous remettez en question un principe constitutionnel, un principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir la liberté de circulation. Et dans ce cas-là, si vous voulez régir...
Mais 13 ans, Richie,
arrêtez.
13 ans,
Mais c'est quand même gravissime. Moi, mes parents... Ils ont une éducation,
vous étiez
dehors, tu vois.
13 ans
mais moi j'habite dans une zone rurale, tu vois, et très tranquille.
C'est déjà pas le même cas.
Et le soir, quand on veut sortir à 20h, 21h à proximité de chez nous, il y a pas de souci, nos parents nous surveillent, ça veut dire qu'en gros, dans les campagnes ou dans certaines zones, on pourrait circuler non-stop, mais dans certains quartiers,
Le vrai sujet,
c'est qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont dus à un manque de moyens colossal et d'investissement dans les quartiers populaires qui nourrissent des phénomènes
délinquance. Il y a pas mal d'investissements dans certains quartiers populaires.
Et comme il y a une volonté de ne pas dire qu'il
manque des investissements dans certains quartiers populaires.
On est dans une logique sécuritaire.
Oh là là, oh là là. Alors qu'est-ce qu'on dit du côté de
la C'est un fait. C'est plusieurs milliards.
L'échec gravissime du gouvernement depuis 2017 qu'il est au pouvoir, Macron. C'est un échec. Et aujourd'hui, l'échec de ces politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis 2017, le résultat, la question que je me pose, Sabrina Nourry, la question que je me pose, mais attendez, le matraquage des services publics, c'est pas Macron.
Je ne suis pas l'ambassadeur de
Depuis 2017, c'est pas la casse de l'école, c'est pas la casse de l'école, c'est pas la casse des hôpitaux, c'est pas la casse du service public. Depuis 2017 qu'il est au pouvoir. Non, à un moment donné, on a le droit de se mettre en colère. Parce que là, il s'agit de nos enfants, a dit le Ferkan. Il s'agit de nos enfants. De nos enfants qui vont dans des écoles où le toit leur tombe sur la tête, où il n'y a pas de moyens, où les profs sont en arrêt maladie, où il n'y a pas d'AESH.
Donc ça justifie que les gamins se retrouvent tout seuls. À 13 ans.
Mais moi, je peux. Pourquoi vous faites le lien comme
non,
ça direct
c'est une conséquence.
Non, mais à un moment donné, cette conséquence, elle vient bien de quelque part et ce n'est pas la faute des parents.
C'est en partie la faute des parents.
Les parents prennent leur responsabilité, ma chère Sabrina Nourry.
Je suis désolée. Mais quand vous travaillez à 5 heures du matin, et que vous rentrez très tard le soir, vous ne voyez pas vos enfants.
Vous signez.
Vous étiez très content au Covid.
Quand toutes ces femmes, ces mères isolées,
faisaient le ménage dans les hôpitaux pendant le Covid, vous étiez tous bien contents. Et aujourd'hui, on les accable parce que leurs enfants de 13 ans sont à la rue.
Les quartiers populaires, ce sont des femmes isolées.
Je suis très en colère. Je suis très en colère par les annonces qui ont été faites par Monsieur Attal, qui ne reflète pas la réalité, qui stigmatise, qui montre du doigt. C'est inadmissible dans un pays qui est comme le nôtre, la France, 7e puissance mondiale. C'est inadmissible. L'école est à terre, l'hôpital est à terre, tout le monde est à terre.
On a entendu votre cri d'alarme.
Il y a une phrase, c'est que de vouloir stigmatiser la banlieue de l'angle de la gauche, c'est-à-dire que parce que vous êtes dans un milieu modeste, vous devez avoir besoin de plus d'aide, vous devez avoir du soutien. Alors que en banlieue, ce sont des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui font tout pour que leurs enfants soient cadrés.
Au lieu de les aider, on les matraque. C'est contradictoire ce que vous dites.
Vous faites de la généralité.
C'est vrai. Moi, j'admets une chose, à 12, 13 ans, On n'a rien à faire dehors. Voilà. Moi, ah bah à 12-13 ans, Nérina. J'étais pas dehors. Mais attendez. Je n'ai pas terminé. Pourquoi viser seulement les enfants des quartiers populaires? Moi, je pense que même un enfant de bourgeois, à 12-13 ans, il n'a rien à faire dehors. Là, c'est tout simplement de la stigmatisation. Par exemple, on n'a jamais pensé à interdire les soirées étudiantes avec des étudiants qui font du bruit, qui laissent traîner la saleté dehors.
Vous avez des quartiers
Les enfants, tous les enfants de ce pays ont des droits, vous avez rigolé comme si c'était pas le cas. Effectivement, en France, il y a un principe qui s'appelle l'égalité en droit. Donc, soit vous faites une loi qui interdit à tous les jeunes de moins de 13 ans de sortir chez eux, ça s'applique sur tout le territoire.
Il faut
soit
vous le faites nulle part.
C'est une trace scolaire comme analyse, mais ça ne s'applique pas aux quartiers. C'est que des zones où vous avez des enfants qui sont beaucoup plus orientés à absorber par la délinquance. De par le milieu dans lequel ils sont, s'ils ne sont pas cadrés, ils ne pourront pas être mis dans la direction. Je veux bien admettre que certains milieux C'est vrai que certains milieux sont plus difficiles que d'autres, mais si on les stigmatise, plus tu vas stigmatiser, plus ça va durer la situation.
Bah, si. Bon, c'est quoi le débat continue?
Je pense qu'il y a d'autres manières.
Il y a un cadre militaire, c'est ça? C'est ça votre projet? Le cadre militaire? C'est bon, on a compris les annonces.
Merci à vous, merci à Sabrina Nouri, merci à Merwan Mehobijdoir, merci à Richie Thibault, merci à Nerina Malard, merci à la réalisation, à Solal, Bilan Lenman, Time Sport, Vanessa 21h, demain c'est Kim, à demain avec autant de plaisir. Le débat est toujours passionnant effectivement, et il doit être mesuré parce que bon, on a tendance parfois à se laisser évidemment emporter par les émotions. 0153483000, on remet ça demain avec autant de plaisir.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.